Retour sur Alpe 1 pour la suite de ce débat en public avec nos deux invités, les candidates qui sont bien sûr en lice pour le second tour des législatives. D'un côté, Catherine Assaut pour Les Républicains et l'UDI et Pascal Boyer pour La République En Marche. Et on va parler santé, Cyrielle.
Et le constat est le même en France que dans les Alpes du Sud. Ceux qui vivent dans le centre des grandes villes sont confrontés pour la plupart à une pénurie de médecins, de généralistes, de spécialistes. Certains praticiens ne prennent simplement plus de patients. D'autres imposent une attente de plus de 3 mois pour un rendez-vous dès les rédhibitoires face à certaines pathologies, des spécialités qui sont aussi parfois absentes à moins de 80 km à la ronde. On pense à la pédiatrie, à la gynécologie ou encore aux ophtalmologistes. Plusieurs questions qui se posent. Tout d'abord, le taux de remplacement des médecins qui partent à la retraite aujourd'hui ne permet plus d'assurer la relève de façon satisfaisante. On revient à parler du numerus clausus, c'est-à-dire la limitation du nombre de places en deuxième année d'études de médecine. Est-ce qu'il faut le revoir ?
Oui, bien sûr. Pascal Boyer. Il faut le revoir, mais... Quand on commence des études de médecine, faut savoir qu'il y en a pour au moins 8 ou 12 années avant de sortir les médecins. Donc c'est pas tout de suite qu'on réglera le problème avec même si on ouvre le numerus clausus.
Admettons qu'un élu a une vision à long terme. Est-ce qu'il faut le penser dès maintenant ?
Oui, effectivement, bon. Il faut le penser maintenant
pour l'urgence, pour se projeter
dans 12 ans. Quoi.
Bon, donc là, si on est d'accord, pour l'urgence, il faudrait faire quoi ?
Pour l'urgence, l'urgence pour l'instant, c'est d'essayer de faire venir des médecins dans nos montagnes et dans nos campagnes.
Comment ?
Alors déjà, en les incitant financièrement à venir.
Ça a échoué à chaque fois.
Comment ?
Tous les gouvernements ont mis en place des mesures incitatives financières, ça a échoué à chaque fois.
Je pense qu'il faut leur assurer un revenu minimum décent, en fonction de leur année d'études, bien évidemment. Il faut aussi les regrouper, donc... Nous avons un outil qui s'appelle Maison Médicale. Sur la première circonscription, pour l'instant, nous n'en avons pas. Il y en a une qui va se construire à la Fraissinouse. Mais je pense qu'il faut pas faire une maison médicale pour faire une maison médicale. Je pense qu'il faut avoir une vision globale sur le département et savoir où exactement les mettre. Effectivement, il y a une vision globale à avoir, mais au niveau entière. C'est-à-dire qu'il faut travailler aussi sur les groupements d'hôpitaux. Nous avons deux hôpitaux sur la circonscription, l'hôpital de Gap, l'hôpital de Laragne, qu'il faut évidemment maintenir, notamment l'hôpital de Laragne, puisque c'est un hôpital, c'est l'hôpital psychiatrique, qui est le seul hôpital, même si à Briançon il y a une unité, mais sur le sud du département, il est important que cet hôpital puisse être préservé, parce que notamment en termes de soins, mais aussi en termes d'emploi sur le Laragnais. Et aussi, je pense qu'il faut travailler aussi sur la complémentarité entre la santé, le service public qui sont les hôpitaux et le service. Les médecins libéraux, c'est une complémentarité entre le public et le privé qu'il faut avoir.
Est-ce que vous êtes favorable à des mesures de contraintes pour des jeunes médecins qui sortent fraîchement diplômés pour qu'ils aillent s'implanter dans des zones où il y a des déserts médicaux ? Est-ce que par la loi, il faut les contraindre ? Est-ce que c'est le genre de proposition que vous porterez ?
Moi, je pense pas que ça soit par la loi qu'il faut contraindre les médecins à venir s'installer là ou pas.
Alors c'est quoi ? C'est la carotte financière ?
Non, déjà, ce que nous proposons, c'est que les médecins fassent les médecins généralistes, qui se projette pour être médecin généraliste, fasse un stage de 6 mois obligatoire. Donc ça déjà, je pense que c'est une solution. Nous avons l'exemple à la maison médicale du Valgaud-de-Mare où il y a Marc Zecconi qui a fait venir des médecins. Des jeunes médecins, des jeunes internes en stage. Ce sont des internes qui viennent du CHU de Marseille, qui sont venus en stage et il y en a certains qui sont restés et qui se sont installés dans les Hautes-Alpes. Donc ça, c'est déjà une piste. C'est-à-dire que, oui, obliger les médecins généralistes au cours de leurs études à venir s'installer à venir faire un stage de 6 mois dans nos montagnes et ensuite,
espérer,
et il n'y a plus qu'à espérer qu'ils puissent s'installer chez nous.
Catherine Assaut, on va faire du 2 en 1 simplement dans cette question. Et le numerus clausus et la mauvaise répartition des médecins sur le territoire, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors le numerus clausus, je crois qu'on est tous d'accord parce que c'est un peu le serpent de mer. On en a entendu parler pendant toutes les élections en disant le numerus clausus, quand est-ce qu'on va l'ouvrir ? Enfin, on va l'ouvrir. Et de toute façon, voilà, il faut anticiper, donc prévoir. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc là, je pense que là-dessus, on peut qu'être d'accord. La santé va au-delà des étiquettes politiques. En ce qui concerne effectivement le fait que nous ayons moins de médecins, moins de spécialistes, même quasiment plus, et que ça devient très difficile, il y a de nombreuses pistes, mais avant d'obliger par la loi, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait aussi qu'on concerte un certain nombre de parties prenantes, les professionnels libéraux, les professionnels hôpital public, les mutuelles, l'ARS, de façon à mettre tout le monde ensemble, de faire une sorte de conférence, de pouvoir faire émerger effectivement certaines idées, notamment comme l'internat en milieu rural, de façon à inciter. Moi, je suis pas pour l'incitation financière. J'ai jamais vu que on peut rester un moment et puis ensuite prendre ce qu'il faut et repartir. Ça, on l'a vu sur d'autres mesures, notamment sur les
entreprises. Non, c'est pas une incitation financière, c'est leur assurer un salaire, donc voilà. C'est pas la même chose.
Donc ça devient des salariés, ils sont plus dans la profession libérale, quoi.
Pas forcément, enfin, voilà, c'est pas des salariés, mais les inciter financièrement.
D'accord, voilà. Mais à quel montant, en fait?
Bah, peut-être augmenter la consultation sur des médecins ruraux, enfin, on peut tout imaginer.
D'accord, oui. En fin de compte, ce qu'il faut, c'est, avant, comme vous le disiez, c'est, est-ce qu'il faut obliger par la loi? Alors avant d'obliger par la loi, je pense qu'il faut qu'on concerte au niveau des territoires, quelle est la meilleure manière de pouvoir effectivement inciter à l'installation des médecins, des généralistes, parce qu'il en vient de moins en moins, des spécialistes, de façon à ce qu'ils ne restent pas que dans les milieux urbains, parce qu'effectivement c'est bien plus facile, vous avez les patients qui sont à proximité, et voilà. Donc mais il y a aussi une autre façon de revoir aussi la formation initiale des médecins, de pouvoir les inciter à venir, mais tout ça doit se faire dans la concertation, le dialogue, de pouvoir faire émerger effectivement des méthodes, des propositions, et de pouvoir les amener jusqu'à l'Assemblée nationale, et pourquoi pas aussi dans le cadre de la loi Montagne, de pouvoir y intégrer la santé, que ça serait effectivement un autre critère, loi Montagne, mais sur la santé, de façon à pouvoir se réunir, parce que je pense qu'il n'y a pas que les Hautes-Alpes sur l'arc alpin qui est touché.
Merci Catherine Assou. Avant de passer à un autre sujet, je voudrais une précision de Pascal Boyer. Vous avez dit on inciterait financièrement, donc l'État paierait pour les médecins. Et vous nous avez dit comment on pourrait faire en rehaussant le prix de la consultation. Ça veut dire que l'État va payer deux fois ?
Non, j'ai pas dit inciter financièrement, j'ai dit leur assurer un salaire décent. C'est pas la même chose.
D'accord. Oui. Donc c'est le patient qui paiera ça ?
Non, c'est pas forcément le patient.
Si on augmente les consultations, fatalement.
Si on augmente les consultations, après il faut qu'il y ait une négociation avec les partenaires au niveau de l'ARS effectivement, mais aussi au niveau de la CPAM pour voir comment ça peut se. Enfin, c'est une piste. Hein, moi, je dis pas parce qu'elle voyait, je vais imposer ça.
J'entends bien. Votre proposition me pose question.
Vous pouvez imaginer une France où la consultation serait un prix différent, un tarif différent selon les zones.
Après, je pense qu'il faut aussi savoir ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut avoir des médecins qui viennent sur les territoires? Donc, auquel cas, là, on est face à un problème. Les médecins ne souhaitent pas s'installer. Les jeunes médecins ne souhaitent pas s'installer. Nous avons une population vieillissante chez les médecins. Beaucoup vont partir à la retraite dans le département. Nous sommes face à un problème. Les jeunes médecins ne souhaitent pas s'installer, donc il faut trouver des pistes.
On va pas revenir sur l'historique, on a compris l'idée, mais c'était la précision qui nous intéressait.
On va passer la parole à Catherine Assou.
Oui, et cette idée de maison médicale de garde, de maison médicale, pardon, de santé pour les médecins pluridisciplinaires. C'est une solution ?
Oui, c'est une solution parce que ça émerge vraiment des territoires et des communes que j'ai visitées pendant tout le long de la campagne avant le premier tour. Il y a des projets, il y a des choses qui peuvent émerger, mais il y a les financements. Et voilà, tout vient aussi de la manière dont on peut financer ces maisons de santé pluridisciplinaires, parce que c'est quand même le nerf de la guerre qui fait défaut. Et après, on peut effectivement le voir concerté, peut-être à l'échelle de l'intercommunalité, à l'échelle... Voilà, je pense pense que tout le monde doit être vraiment ensemble et unis et rassemblés sur ce sujet.
Alors, puisque le nerf de la guerre, ce sont les finances, on va passer à un autre sujet.
Mais j'aimerais intervenir. On fait des maisons médicales, mais il faut quand même encore faire venir les médecins, quoi. Voilà. Donc, c'est le problème est là. Le problème est là.
Mais c'est une proposition d'Emmanuel Macron sur cette multiplication des maisons médicales.
Alors, puisque le nerf de la guerre, c'est l'économie, eh bien, on va passer à l'économie et à la fiscalité, Lionel.
Oui, autre proposition d'Emmanuel Macron. En Marche propose la hausse de la CSG. Alors, clairement, qui payera et combien? On a pris un exemple. Je suis salarié, je gagne 1200 euros net. La ligne CSG sera relevée de combien pour moi?
Alors, la ligne CSG sera relevée d'un... 1200 net.
Ouais.
Donc là, c'est le seuil. Donc, je pense que vous l'avez peut-être...
Partant du seuil, et puis vous nous direz... Hein.
Ben, 1200... Voilà, normalement, vous n'êtes pas rehaussé. Bon, ça, on dit que c'est à partir de 1200, mais comme c'est un calcul.
Alors, disons qu'on gagne 1201 euros net.
Bon, alors 1201, je pense que vous allez être augmenté de 1,7%, 1,7 points, pardon, de CSG. Mais en contrepartie, vous aurez votre taxe d'habitation qui sera exonérée. Donc, grosso modo.
Justement, on dit, dans les programmes, on lit dans les programmes d'En Marche, 80% des Français seraient exonérés de la taxe d'habitation. Donc, qui sont ces Français et quels sont ceux qui vont la payer?
Alors.
Pour clarifier votre.
Les Français qui paieront la taxe d'habitation sont les Français qui ont une part fiscale supérieure à 20 000 euros. La part fiscale. Donc, toutes les personnes qui ont une part fiscale inférieure à 20 000 euros ne seront exonérées de cette taxe d'habitation. Je voulais rajouter que il y aura pas un effet palier, c'est-à-dire que ça va être lissé au niveau de la taxe d'habitation, c'est-à-dire que on dit qu'il y a 80% des Français qui ne la paieront pas, mais il y en aura certainement un peu plus puisque ça sera lissé, il y aura pas l'effet palier. Voilà.
D'accord. Je suis pas sûr d'avoir compris. Je m'excuse.
Ça veut dire que il y aura pas.
Expliquez-moi comme si j'étais un enfant de 12 ans parce que là j'ai absolument pas compris.
Alors comment dire, on avait calculé à peu près que c'était des personnes qui touchaient moins de 1800 euros qui devaient être exonérées de cette taxe d'habitation. Mais comme chacun sait, quand on a un palier 1800, donc si on touche 1801 euros, effectivement, manque de chance, on n'est pas exonéré. Donc il y aura un effet de lissage et la personne qui touchera un peu plus que 1800 euros aura une exonération aussi de la taxe.
Je crois avoir compris. Merci.
Voilà. Vous-même, Madame Assaut, qu'est-ce que vous pensez de ces propositions?
Moi, sur les propositions de l'augmentation de la CSG, je l'ai déjà dit. J'ai dit, moi, je suis absolument pas d'accord. Ça va toucher les retraités. J'ai rencontré énormément de retraités qui s'inquiètent, les épargnants aussi. Les épargnants, la CSG touche aussi l'épargne. Et l'épargne, c'est l'investissement dans les entreprises. Donc, moi, je suis. C'est sûr que si je suis élue, je voterai pas l'augmentation de la CSG. Là, c'est pour le coup, c'est clair, parce que ça a été abattu. Il y a eu vraiment. Les Français ont été abattus fiscalement pendant 5 ans, donc maintenant on stoppe, quoi. Au niveau de la CSG, on nous l'augmente à chaque fois. Et c'est vraiment.
Et pourtant, si mes souvenirs sont bons, François Fillon, pendant la campagne présidentielle, parlait d'augmenter la TVA.
Alors, ça a été abandonné dans le nouveau programme, dans les nouveaux LR, parce que nous avons pris les leçons des présidentielles, fatalement. C'est sûr que.
Oui, mais il y avait une réalité économique, j'imagine.
Il y avait une réalité économique qui n'a pas été reprise par les Républicains en disant, bon, voilà, tout le monde s'est mis autour de la table. C'est vrai que ça n'a pas créé l'adhésion au niveau des Français de faire cette TVA qui pouvait être appelée soit TVA compétitivité, justement, pour pouvoir.
Donc, il n'y a pas d'augmentation? Dans le programme des Républicains,
Oui, alors donc contrairement à ce que vous, enfin aux retraités que vous avez rencontrés, moi j'ai des retraités qui effectivement sont
pas inquiets.
C'est pas qu'ils soient pas inquiets, mais des personnes qui touchent plus de 1800 euros par des retraites de plus de 1800 euros qui me disent que au contraire eux ils sont comment dire, ils ont des enfants, ils ont des petits enfants. Cette augmentation de la CSG finance la suppression des cotisations salariales, assurance chômage et retraite et maladie des salariés. Donc ce qui veut dire que ça va faire un pouvoir d'achat pour les personnes qui travaillent et donc ça redonne du sens aux personnes.
Donc ça c'est pour les retraités qui touchent 1800 euros.
Non,
donc
ça, les personnes qui touchent plus de 1800 euros ne seront pas exonérées de la taxe d'habitation et effectivement seront touchées par l'augmentation de la CSG de 1,7 point. Mais ces personnes-là me disent aussi que si elles Si elles acceptent ça, c'est parce que en contrepartie, elles ont des enfants, elles ont des petits-enfants et elles sont là pour les forces nationales, la solidarité nationale, et elles sont contentes de pouvoir contribuer au fait que des salariés qui touchent des salaires moindres puissent, enfin des salaires des bas salaires, puissent avoir un pouvoir d'achat augmenté.
Mais eux aussi
augmenté.
Vont quand même être touchés par l'augmentation de la CSG.
Non, ils sont...
Les bas salaires, 1200 euros.
Oui, mais ils auront l'exonération.
Oui, mais ce que ils auront l'exonération d'une poche va être enlevée de l'autre.
Non,
par rapport à l'exonération qui sera soi-disant compensée.
Il y a l'exonération.
J'ai du mal à comprendre le mécanisme.
Attendez, c'est ma part. Ils ont l'exonération de la taxe d'habitation, l'augmentation effectivement de la CSG, mais en contrepartie, ils ont aussi la suppression de leur cotisation salariale au niveau de l'assurance maladie et chômage. Donc ça leur augmente le salaire, donc ça leur augmente le pouvoir d'achat. Donc ces retraités-là sont les retraités touchés. Oui, non, mais je vous parle des retraités. Vous me dites que les retraités sont tous navrés. Non, moi j'en ai rencontré qui ne sont pas navrés. Au contraire, qui sont
s'inquiètent et on reçoit des lettres.
Qui souhaitent participer à l'effort national. En plus, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir prendre ses responsabilités et savoir faire des réformes. Les réformes n'ont pas été prises depuis 20 ans. Monsieur Hollande, mais aussi Monsieur Sarkozy et Monsieur Chirac. Trois quarts de la responsabilité incombe à Monsieur Chirac et à Monsieur Sarkozy, un quart peut-être à Monsieur Hollande. Donc, arrivé à un moment, il faut savoir ce que l'on veut faire. Il faut savoir faire des réformes et nous sommes obligés de le faire. Autrement, ça sera la catastrophe.
Alors, puisque vous parlez des retraités, la transition est toute faite. Puisque La République En Marche souhaite aller plus loin sur les retraites avec la mise en place d'un système proche du modèle suédois qui mènerait vers une harmonisation des différents régimes. Cela annonce quoi pour les retraités, Pascal Boyer ?
Pour l'instant, pour les retraités actuels, ça restera comme les réformes ne sont pas mises en place. Après, ce que nous souhaitons, c'est que les régimes spéciaux n'existent plus, on va dire, même les régimes parlementaires, tout le monde soit mis à la même enseigne et que 1 euro cotisé gagne 1 point de retraite et que tout le monde soit aussi bien salarié, agriculteur. Commerçants, indépendants, chefs d'entreprise, soient tous au régime général et qu'on soit tous lotis à la même enseigne.
Avec un départ
à quel horizon alors ?
Oui.
Là, ça se fera au cours de la mandature. Hein, donc voilà.
Avec un départ à la retraite qui est annoncé pour.
Pour 62 ans.
Oui. Question pour Catherine Assou.
Moi, j'avais une question pour Pascal Boyer pour revenir sur l'exonération de la taxe d'habitation. Donc là, ça serait voté à la rentrée, l'augmentation de la CSG.
Non. Alors, l'exonération de la taxe d'habitation...
C'est pas avant 2020, je crois, c'est ça ?
Ça sera au cours de la mandature, voilà.
Bon, d'accord. Voilà. Non, mais en attendant, je veux dire...
En attendant, ça restera comme ça. Tant que c'est pas voté, d'accord. Ça restera comme c'est.
D'accord.
La réponse, ça vous a...
C'est bon.
D'accord.
J'ai ma réponse.
Vous avez bien fait. Alors, je reviens vers vous pour les retraités.
Mais ce que je souhaite, on n'aura pas l'augmentation de la CSG tant que l'exonération... Enfin, ça va se faire ensemble, quoi. L'exonération de
l'augmentation
la taxe
de la CSG s'il y a une exonération de la taxe d'habitation.
Voilà,
très bien, c'est
ensemble.
Noté. Oui. Je voudrais revenir sur les retraités, si ça ne vous dérange pas. Les Républicains militent aussi pour une convergence entre public et privé.
Oui, ça a toujours été un débat qui s'est toujours fait. Et là, il est temps de le faire, effectivement.
Très bien. Et je poursuis ma question. Par ailleurs, vous voulez augmenter l'âge légal de départ à 65 ans contre 62 actuellement. Les salariés travailleront plus longtemps et cotiseront donc plus longtemps.
Cotiseront plus longtemps, mais le fait est, c'est que c'est vrai que quand on propose et qu'on dit on va travailler plus longtemps, il y a un moment aussi où il faut adapter aussi le mode de travail et les postes de travail, comme on dit. Je veux dire, il va falloir voir aussi et revoir sur cette modernisation de la qualité du travail pour les personnes qui vont devoir partir. Plus longtemps, parce
ça veut dire que le compte pénibilité, ça veut dire que le compte pénibilité doit être maintenu.
Non,
si
par contre,
entends.
Non, le compte pénibilité ne doit pas être maintenu, parce qu'il faut savoir. Ouais. Non, c'est pas lié du tout. Moi, je suis pour la suppression du compte pénibilité parce que c'est aussi une demande des entreprises. Vous savez encore encore une charge administrative pour les entreprises. Mais par contre, en ce qui concerne l'aménagement de certains postes, l'aménagement de la qualité de travail, l'Allemagne l'a fait, et je pense qu'on est capable aussi de pouvoir le parler en termes de management et de ressources humaines.
Bien, alors je vous coupe parce qu'on va marquer une courte pause et on va se retrouver dans un instant sur Alpe 1 pour la suite de ce débat. Nous sommes ce soir, je vous le rappelle, dans les Hautes-Alpes sur la première circonscription avec Catherine Assaut pour les Républicains et l'UDI et Pascal Boyer pour La République En Marche.